L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Non, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À Maurice Chardot.
Une page d'histoire mise en musique, Jukebox qui a pris ses quartiers d'été, vous propose chaque week-end à 19h une série de rediffusions. Bonsoir à tous. Décrochage mental, délectation horizontale, ce soir pour inaugurer cette série d'escapades estivales, nous reviendrons en cet été inédit sur l'histoire des vacances. Vacances qui, on le sait, n'ont pas toujours existé comme telles, se développant en France à partir de 1936 et surtout de l'après-guerre et reflétant en creux l'évolution de nos mœurs contemporaines. Dans cette histoire, on croisera une formule tout compris, des corps qu'on déshabille du regard, des restes de pique-nique au Parthénon, des 404 et des Renault 16 se tirant la bourre sur des routes nationales. Ce soir, l'invention des vacances ou le vertige de soi. Végétal, on a presque l'impression qu'il fait nuit. La végétation est si dense qu'elle semble happée jusqu'à l'atmosphère. Même les coups de machette lancés au hasard devant soi ne parviennent plus à remuer grand-chose de l'air raréfié et aussitôt aspiré par cette gangue végétale. Or, de ne plus pouvoir respirer tranquillement, Hervé, lui, il en a marre. Ça monte progressivement depuis ce matin et le petit-déj au milieu des autres, leur sommeil profond, leurs gueules angéliques et leur humanitaire joyeux autour du buffet. Ces 3 semaines formulent tout compris dans la jungle brésilienne au profit d'un groupe de paysans sans terre, malgré la qualité indéniable du petit-déj. C'était quand même un peu particulier. Pour 2 000 € la semaine, être ainsi largué au milieu de nulle part, à s'escrimer contre cette saloperie de végétation tropicale, soi-disant future zone cultivable d'une famille des alentours. Cette famille, Hervé en avait bien croisé quelques membres le premier jour, mais depuis, il ne les avait jamais revus pour bosser à leur côté. Bref, là, au milieu de la jungle, ça commence à bien faire. Sans parler des nuits, où malgré les litres de répulsifs et la moustiquaire, ça ne se passe pas très bien non plus. De sa manche, Hervé s'essuie le front, chasse les bestioles qui tentent de lui pénétrer les orifices, et il reprend son souffle. C'est vrai, qu'est-ce qu'il fout là? Pendant ce temps, bien planqué à l'arrière des machettes qui suent et s'activent à l'avant, le responsable du groupe tente lui de les dynamiser en leur récitant des aphorismes soi-disant issus de tribus locales. Alors Hervé, en mode automatique, cherche à s'abstraire. Il se remet à penser à son travail et à ses comptes d'exploitation qu'il lui faudra boucler au retour à Paris dans une quinzaine de jours. À côté de lui, sa voisine de chantier, une autre Française, 45 ans bien tapée, elle s'appelle Annick, qui lance à droite et à gauche sa machette dans un bel élan et une saine énergie, note Hervé. Si elle se trouve, elle aussi, a débarqué comme lui sur un coup de tête le formulaire d'inscription rempli sur son laptop un soir de la fin du mois de juin, un de ces soirs où l'on signerait à peu près n'importe quoi pourvu que ça meuble un bout d'été. Elle qui se retourne justement vers Hervé et ses bras ballants et qui, soufflant une mèche de cheveux collée, lui adresse un clin d'œil. Vivement la caipirinha ce soir, hein ? Sur elle, la formule « trois semaines tout compris » semble prendre. Hervé, lui, la regarde et hausse les épaules.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning there's nothing can harm you, with daddy and mommy standing by. Summertime and the living is easy. Fish are jumping, cotton is high. Oh, your daddy is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you, with daddy and mommy standing by.
Les vacances, donc, et plus exactement ici, celles de l'été. Ces vacances comme des césures qui rythment le temps depuis l'enfance. L'été où la vie est douce, où les poissons bondissent, où le coton pousse et puis ton père est riche, ta mère est belle, ne pleure pas, calme-toi et rendors-toi. L'été de Summertime, cette berceuse chantée par Clara dans l'opéra Porgy and Bess, composée par Gershwin en 1939, est repris à ce jour pas moins de 64 000 fois, notamment par le groupe américain Friends of Dean Martinez, un groupe d'Arizona, en 2001, et puis à l'instant, par Caetano Veloso. Dans l'opéra de Gershwin, pour apaiser l'enfant, Clara poursuivait. Un de ces matins, tu te lèveras en chantant, et tu déploieras tes ailes pour t'envoler vers le ciel. Déployer ses ailes, c'est pourtant très exactement ce qu'Hervé avait fait en se rendant, cet été-là, dans le nord du Brésil. À croire que, malgré les recettes garanties, il n'est pas si simple de réussir son été.
Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Allongé sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable, on est bien tous les deux. C'est l'été, les vacances, oh mon Dieu, quelle chance. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ma cabane est en planche et jour, ce dimanche, et nous dormons longtemps. À midi, sur la plage, les amis de notre âge chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance en chantant le ciel, le soleil et la mer. En chantant le ciel, le soleil et la mer. Quelque part en septembre, nous nous retrouverons. Et le soir, dans ta chambre, nous le rechanterons. Malgré le vent d'automne et les pluies monotones, nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer.
Le ciel, le soleil et la mer, recette de vacances idylliques par François de Geltz en 1965. Et pourtant, ces vacances, elles ne sont guère aisées à apprivoiser, donc, ni pour Hervé, ni pour d'autres, et ce depuis toujours.
Les vacances se sont tellement généralisées que ne pas partir est considéré comme une faute contre l'honneur. Vos amis, si vous en avez, ce qui est en réalité assez rare, il faut l'avouer, vos supérieurs, beaucoup plus facile à se créer que des amis, vos condisciples, si vous êtes étudiant, ou vos complices, si vous êtes coupable, vous demandent d'un ton inquisitorial « Où allez-vous cette année ?» Répondez pour voir « Je passe mes vacances à Paris-sur-Seine. » On échangera derrière votre dos des regards inquiets. On songera à vous conseiller plutôt Charenton, villégiature idéale pour un vrai dépaysement. Pendant l'année, vous vous êtes au besoin privé du pain quotidien, non tant pour aller en vacances que pour y être allé. Hors du commun, point de salut. Pendant des veillées laborieuses, vous avez établi un itinéraire, usant vos pauvres yeux sur des cartes d'état-major. Au bureau, simulant une grande activité professionnelle, hypocritement abrité par quelques registres, d'une encre déjà bouillonnante comme l'océan auquel vous aspiriez, vous avez écrit à des palaces, des hôtels borgnes, des pensions religieuses, des meubles et louches. Vous avez adhéré à des clubs, des groupes, des groupements, des organismes, des organisations. Vous avez retenu votre place dans des cars, des cargos, des caravanes, des caravanserails. Vous avez sollicité des conseils, des consulats et prospecté les prospectus. Tout est prêt. On s'est taillé une tente dans les rideaux du living room. On a transformé le tapis en salle de couchage et vendu le service à poisson pour acheter une canne à pêche. On part, on s'envole, on s'embarque, on appuie sur l'accélérateur. On se dissout dans la nature. Il y a des villes de toile, des villes d'eau, des villes d'art. Le rideau de fer se laisse facilement traverser. On peut aussi aller dans sa belle famille à Chalon-sur-Saône.
L'écrivaine belge Béatrice Beck à propos des vacances dans un texte lu par elle-même dans cette archive de 1956.
On va se faire bronzette le long de la croisette, près des sablettes, chez Bonifette. Et quand on est bronzette sur toutes les facettes, aussi dorette qu'une pendulette, pour se débronzette, on revient de la croisette à la Villette, à la Motte Piquette. Alors pour se consoler et pour se changer les idées, on s'fait passette, un disque veuguette.
Oui, mais honte fidélité.
À son atelier dans la forêt d'Aubervilliers et regarder des filets tous les mois. Et
mais vers juillet on prend congé
pour se rebronzette, promenade des Anglettes dans le Pas-de-Calais ou bien au Touquet.
Mais quand on est bronzette, on se rend compte qu'on n'a plus de pépette
et faut retourner à l'atelier. C'est des bronzes épousserées argentées.
La bronzette, Jean Constantin, 1960. Chacun ses vacances, donc, à ses risques et périls. En Occident, on aime souvent les concevoir aussi originales, personnelles et singulières que nous le serions nous-mêmes. À ce petit jeu, les Français sont probablement depuis toujours les plus snobs. Au 19e, déjà, Chateaubriand se plaignait des Cookers, ces groupes de voyageurs britanniques emmenés par Thomas Cook, lesquels voyageurs abandonnaient derrière eux les restes de leur pique-nique au Parthénon. Flaubert, de son côté, s'insurgeait contre les graffitis laissés sur les pyramides égyptiennes. L'enfer des autres. Bref, pour des vacances réussies, il faut pouvoir s'imaginer seul, ou presque, une île inconnue en Méditerranée, un chantier solidaire je ne sais où, un périple sur les traces d'un ancêtre, un lieu retiré à l'abri des regards, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça n'est pourtant pas la conception des vacances de tout le monde. Parmi ceux qui ont découvert le tourisme récemment, les Chinois par exemple, on ne cherche pas à s'isoler de la masse en allant là où personne ne va. Au contraire, il est du meilleur goût d'aller ou de s'être rendu dans un endroit touristique ultra fréquenté. Paris, Londres, Rome, c'est so chic. Mais dans un cas comme dans l'autre, que l'on recherche le goût des autres ou que l'on tente justement de s'en démarquer, on est en vacances de quoi alors quand on est en vacances? Sûrement pas du regard d'autrui. Car au fond, il s'agit aussi de pouvoir faire, au retour de ses vacances, le récit de soi-même. Kodak l'avait si bien compris, souvenez-vous du « on peut rater ses vacances, pas ses photos ». Peu importe, au fond, que nos vacances soient vraiment réussies, l'essentiel est d'y faire croire les autres.
Bon, tu chantes, oui?
Ah, quel plaisir quand vient l'automne, quand les vacances sont terminées, d'aller chercher une ou deux tonnes de photographies développées. On les collera dans des albums qu'on rangera sur des étagères, un peu comme au musée de l'homme. Fais-tu ces gros coléoptères? Mais chez nous y'a tonton Yves, un vieux baba, un écolo. Il fait des diapositives, son truc c'est les soirées diapo. Les soirées diapo, c'est pas rigolo. Y'a même pas de coca, y'a que du bon gars. Les soirées diapo, c'est pas du gâteau. Tout me rend morose, sauf ma cousine Rose.
La première diapo est trouble, il faut une heure pour régler. Ça remue, moi j'y vois double, je crois que je vais aller gerber. On aperçoit une église avec un petit bout de ciel. On dirait la tour de Pise.
Et non, c'est le Mont Saint-Michel. L'historique pendant une heure. Enfin, c'est la diapo 2. C'est la même que tout à l'heure avec un filtre couleur bleue.
Les soirées diapo, c'est pas rigolo.
Y'a même pas de coca, y'a que du banga.
Les soirées diapo, ça m'irrite la peau. Il me faut ma dose de cousine rose.
La diapo numéro 3, elle se coince dans l'appareil. Faut que mon oncle y mette les doigts pour sauver son coucher de soleil. Comme ça y'en a eu 20 boîtes, toutes sur le mont Saint-Michel. Devant nous enfin miroite
la fin du martyr visuel. On va boire un coup de bangadine, notre oncle surexcité. Et après on regardera notre voyage à Douarnenez.
Les soirées diapo par le groupe des frères Brothers. Ce cérémonial, celui de projeter des images, était apparu à la fin du 19e siècle grâce à la lanterne magique, l'ancêtre du projecteur. Aujourd'hui tombé en désuétude avec la disparition de ce type de pellicule, le pourtant si beau Kodachrome. La faute peut-être également à un certain désenchantement vis-à-vis du récit fastidieux des aventures d'autrui. Qui s'échange encore aujourd'hui des images de ses vacances ? Davantage qu'une poignée de photos brandies sur un téléphone portable, les vacances et leurs promesses de découvertes et d'ailleurs auraient-elles perdu de leur magie et de leur attraction? Mais d'ailleurs, ça avait commencé quand cette histoire de vacances? Eh bien, pour ne parler que de la France, disons que jusqu'à la fin du 19e siècle, la plupart des Français n'en prend pas, ou bien à la cloche de bois, ici ou là, une poignée de jours afin de rejoindre la famille pour une fête, une naissance ou un enterrement. À l'autre bout de l'échelle sociale, d'autres, rentiers ou fortunés, eux évidemment disposent de temps et commencent à s'interroger sur ce qu'ils pourraient bien en faire. Se développent alors ce qu'on appelle les voyages d'agrément en France ou à l'étranger et qui sont l'apanage d'une petite minorité jusqu'à ce qu'en 1853, Napoléon III instaure par décret les premiers congés payés au bénéfice des fonctionnaires 2 semaines par an.
Allons les voyageurs en voiture!
À cette époque, viennent d'apparaître les premières lignes de chemin de fer qui permettent aux Parisiens de s'échapper de la ville, de son bruit et ses désagréments, pour rejoindre quelques maisons à la campagne ou l'une des centaines de guinguettes qui se multiplient en bord de Seine. Le train qui constitue déjà une expérience en soi, permettant de rompre avec le quotidien et de voir du paysage. Mais en France, donc, cette fin de 19e, les seuls à bénéficier de vacances payées sont donc les fonctionnaires 15 jours par an. En dehors d'eux, les professions libérales et les commerçants peuvent bien eux aussi prendre quelques jours de congé, mais c'est à leurs frais. Par la suite, il faut attendre 1900 pour que les choses bougent. Les salariés du métro parisien, dont le chantier pharaonique avait souvent été paralysé par de longues grèves des terrassiers, bref, ces salariés du métro obtiennent 10 jours de congé annuel. Dans la foulée, les salariés des entreprises électriques et gazières, puis les employés de bureau, décrochent à leur tour quelques jours annuels. Malgré ça, avant 1936, les vacances ne concernent encore que bien peu de monde. Et parmi eux, rares sont ceux qui savent en profiter pour partir longtemps, la plupart préférant une brève partie de campagne, un ou deux jours, le temps d'aller voir Tata et retour au bercail. Bref, pour apprendre à profiter de ces vacances, il faut attendre l'arrivée au pouvoir du Front populaire.
Il ne faut pas que je vous cache que j'ai toujours la sainte horreur des vaches. Dans ma famille, c'est un tort. Hélas, le métier de toréador n'a jamais été notre fort. J'aimerais mieux qu'on m'injurie, qu'on me pende ou qu'on m'expatrie, plutôt que de toucher un pis de ma vie. Je suis ainsi, tant pis, et c'est dommage. La fille de la fermière est charmante et on a le même âge. Par bonheur pour les amoureux, il est au grand air d'autres jeux. Des jeux que j'aime davantage, des jeux que j'aime davantage. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. On s'embrasse et l'on se trémousse. Ah que la vie est douce, douce, couchée dans le foin, avec le soleil pour témoin.
Couché dans le foin, une chanson composée par Mireille sur des paroles de Jean Nohain, interprétée ici par Jacques Dutheil. En 1936, avec la victoire du Front populaire aux législatives, un immense mouvement de grève éclate. On connaît l'histoire, revendiquant pêle-mêle augmentation des salaires, limitation de la durée hebdomadaire de travail et donc octroi de congés payés. Or, le Front populaire n'avait rien prévu dans son programme sur cette question, les communistes étant même alors opposés à l'idée même de vacances, mais Léon Blum perçoit là la valeur symbolique de cette demande, celle d'être payé à ne rien faire. CGT et patronat se mettent d'accord une nuit de juin, et puis tout va très vite. Le soir même est déposé à l'Assemblée un projet de loi, court et simple, a droit à 14 jours de congés payés, tout salarié lié à un employeur par un contrat depuis au moins un an. Votée la nuit suivante, à l'unanimité, la loi est promulguée 10 jours plus tard et en quelques jours, la France a généralisé ce qu'on avait longtemps considéré comme une utopie. Tous les Français disposent désormais de 2 semaines de congés payés. Les vacanciers affluent en masse dans tout le pays, privilégiant les bords de mer et les stations balnéaires qui se développent dans le sud-ouest ou bien encore, évidemment, sur la Côte d'Azur.
Côte d'Azur, aller vers le ciel mûr. Partir, quitter la scène et ses brouillards, le spleen et le cafard. Partir, les yeux éblouis de lumière, devant l'horizon qui s'éclaire, frémir d'espoir et de désir, d'ivresse et de plaisir. Partir, dès que l'automne vous emprisonne sous son manteau de brume et de sommeil, dans votre rêve, soudain se lève un désir fou de fleurs et de soleil.
Partir pour la Côte d'Azur, aller vers le circuit. Partir, quitter la graine du débrouillard, le spleen et le cafard. Partir.
Robert Burnier, Partir sur la Côte d'Azur, interprété dans les années 40. Pourtant, cette idée de vacances connaît une application lente. L'été 36, seuls 600 000 salariés en profitent malgré des billets de train à prix préférentiel mis en place par la SNCF. Ils sont 3 fois plus l'année suivante, mais en 1938, le soufflet retombe. La loi ne fait pas tout, il y a les vieux réflexes, et de fait, une majorité de Français ne parvient pas à penser son temps hors du travail. Des vacances, oui, mais pour faire quoi? Et puis pour aller où? Et puis comment? La bascule intervient plus tard, dans les années 1940, via la démocratisation de l'automobile qui donne au plus grand nombre la possibilité d'éprouver enfin une pleine liberté de mouvement. Entre 1930 et 1940, le nombre de voitures en France quadruple, passant de 300 000 à 1 400 000. Un nouvel imaginaire s'ouvre aux Français, prendre la route, rite de passage vers le temps des loisirs.
Oh, ne te mets pas en colère, il n'y a vraiment rien à faire. La voiture est en panne d'essence, nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler?
Je rentre à la maison,
ça fait bien loin à pied.
Oh, je connais les garçons,
l'endroit est désert.
Je te vois bien venir,
et il a tout pour plaire.
Il faut repartir.
je n'ai plus d'essence.
Ça, je n'en crois rien.
Nous sommes à l'avance.
Ça t'arrange bien.
Il faut rester là.
Ma maman m'attend.
Surtout ne t'en va pas.
Tu es échenapant.
Wow. Surtout n'ouvre pas la porte. Dehors la pluie est si forte. Entends-tu le tonnerre gronder? Viens dans mes bras pour te réchauffer. Dans mes bras il fait bon.
Tu vois je le savais.
À pied c'est trop long.
Tu me fais bien marcher.
Tu devrais me croire.
Moi je sais que tu mens.
Je n'ai rien dans le réservoir.
Mais je t'aime tant.
Je voudrais t'embrasser.
Pas plus d'une fois.
Pour te réchauffer.
Prends-moi dans tes bras.
Ah comme on est bien.
Dehors il pleut.
Pour l'essence on est loin.
Oh oui c'est tant mieux.
Boutoum boutoum boutoum.
Allez allez.
De la chance d'être tombé en panne d'essence. Après tout, ici on est très bien. Je ne regrette vraiment rien. Pour toi, je perds l'esprit.
Attendons un peu.
En fait, tu m'as compris.
Le ciel est bleu.
Tu ne m'en veux pas.
Je t'aime trop.
Alors restons comme ça.
Oh, comme il fait bon.
Wow, chérie, je te demande pardon. Dans la malle, il y a un bidon. C'est seulement maintenant que j'y pense. Il est plein d'essence. Tout poudoum, tout
poudoum. Dali, ali, ali, ho.
Poudoum, poudoum, poudoum.
Dali, ali, ali, ho.
Poudoum, poudoum, poudoum.
Dali, ali, ali,
ho. Poudoum, poudoum, poudoum.
Dali, ali, ali, ho.
Poudoum, poudoum, poudoum. Panne d'essence par Francky Jordan, de son vrai nom Claude Benzaken, né à Oran et pionnier du rock français pour la reprise d'une chanson américaine, Out of Gas, en 1961. Dans laquelle lui donne la réplique une certaine Sylvie Vartan, alors débutante. Le mouvement des vacances, donc, ne prend véritablement en France qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. En 1948, on compte 3 millions de vacanciers, puis 5 millions en 1951. Pourtant, les infrastructures ne sont pas encore prêtes pour ce tourisme de masse. Les capacités hôtelières sont limitées, ainsi qu'en témoigne cet archivina de 1946.
À moi, Gasquet, vous qui êtes à peu près le mieux placé, ou tout au moins l'observatoire du mouvement, du véritable mouvement touristique qui est mêlé à la foule, si j'ose m'exprimer ainsi, n'est-ce pas, par votre situation de président du Touring Club, quelle est votre impression sur le tourisme de cette année? Voyez-vous venir beaucoup de gens? Voyez-vous ces touristes vouloir faire des voyages à bicyclette, en automobile, en chemin de fer? Voyez-vous des régions où ils préféreraient aller, où ils ne vont pas? Voilà les questions que je voudrais savoir.
Le mouvement touristique est certainement extrêmement développé. Le besoin de se déplacer n'a jamais été aussi pressant qu'il ne l'est à l'heure actuelle, après 5 ans d'immobilisation et de paralysie. Mais les difficultés que vient de signaler le représentant de l'hôtellerie me paraissent essentielles. Et je me demande si la solution, en dehors de celle qui a été déjà représentée tout à l'heure par M. Paoletti, n'est pas justement vers le camping, qui permet aux jeunes et aux personnes qui ont des moyens très modestes de suppléer à la déficience des hôtels par des voyages pédestres ou cyclistes dans des conditions extrêmement acceptables.
Le camping qui, de fait, à la fin des années 50, connaît un immense essor, incarnant un tourisme populaire où l'on aime à se retrouver d'une année sur l'autre sur des terrains qu'on aménage un peu partout. Barbecue, pastis, pétanque, les gamins qui jouent ensemble, les randonnées ou les parties de pêche, et puis le soir, le barbecue qui ressuscite les veillées d'antan.
Vive le camping avec le sac au dos, en sifflotant le cœur content à pied ou en vélo.
Vive l'autostop et le chauffeur galant qui nous sourit bien gentiment et qui nous laisse en blanc.
Oh, les garçons et filles,
c'est la belle saison des fleurs et des chansons.
Oh, et le soleil brille,
marchons gaiement vers l'horizon. Ah, quel plaisir dans un petit coin coquet de s'installer pour déballer la tente et les piquets. On est chez soi en moins de 3 mouvements, à moins que la tente au même instant ne fiche le camp.
La vie en plein air, c'est charmant pour tout le monde, et vivre en commun, c'est un peu comme dans l'armée.
Mais quand l'adjudant a les traits d'une jolie blonde, c'est avec plaisir qu'on fait toutes les corvées.
vivre le camping en short ou en maillot. Et dans les cheveux, c'est pas tout un simple coquelicot. Aux provisions, on part de bon matin. Quand on revient, le panier plein, on a oublié le pain.
Oh, et vive l'aventure!
La chasse aux papillons et la pêche aux goujons.
Oh, et dans la nature!
Ah, que c'est bon, un roupillon!
La, 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 la.
Vive la cuisine que l'on fait en plein vent. Pour les Indiens, c'est moins que rien, me faut souffler longtemps. Au bout d'une heure, le feu s'allume enfin. Mais quand on apporte la marmite, il est éteint. Pour se présenter, on ne fait pas de manière. En tenue légère, on ressemble à son voisin. Et si l'on n'est pas l'Apollon du Belvédère, il y a toujours une fille pour vous trouver très bien.
Chanson pour notre fracas, on est dans l'insouciance. Chantons gaiement les feux de camp. La 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 la.
Le chanteur grec naturalisé français Georges Guettari pour ce Vive le camping tiré du film Une fille sur la route de Jean Stély, sorti en 1952, dans lequel un célèbre chanteur, lassé d'être reconnu, part en vacances en quête d'anonymat sur la route. Il y rencontre une jeune et belle autostoppeuse. Les vacances qui mettent donc du piment dans l'existence par les nouvelles perspectives amoureuses qu'elles induisent. Les célibataires cherchent l'âme sœur. Pour les couples, c'est une autre histoire. Certains doivent parfois appréhender leur première séparation, ainsi que le chantaient déjà en 1935 et non sans humour Mireille et Jean Sablon, puisque vous partez en voyage.
C'est gentil de m'avoir accompagné à la gare.
En me voyant, monsieur.
Ah si, si, si. Et puis ces fleurs, ces bonbons, ces journaux.
Savez-vous que c'est la première fois que nous séparons depuis que c'est arrivé?
Remarquez que 15 jours sont pas très longs.
Évidemment, 15 jours, ça n'est pas très long. Mais songez tout de même à ce que ça fait d'heures, ça. Puisque vous partez en voyage.
Puisque nous nous quittons ce soir.
Mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage.
Voyez, j'ai posé vos bagages. Marche avant, côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage,
j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Vous resterez seul sur le quai.
Et je vous verrai de la gare. Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours.
Et revenez dans notre cage, où je guette votre retour. Voilà, je vous ai trouvé une bonne place dans un compartiment. Où il y a une grosse dame et un vieux curé avec une barbe blanche.
Oh, je crois que je serais très bien.
Et puis je vous ai acheté deux livres.
Ah.
Et voilà le premier, c'est La vie des saintes. Et l'autre, c'est L'imitation de la bienheureuse Ernestine. Ça vous plaît, ça?
Beaucoup.
Puisque vous partez en voyage, vous m'avez promis, ma chérie, de m'écrire 14 pages.
Tous les matins ou davantage.
Pour que je voie votre visage. baissez la vitre, je vous prie.
C'est affreux, je perds tout courage.
Et moi je déteste Paris.
Le contrôleur crie aux voitures.
Le cochon, il sait pourtant bien que je dois rester, mais je jure que s'il le crie encore une fois, moi je viens. J'ai mon amour pour seul bagage et tout le reste, je m'en fous. Puisque vous partez en voyage,
mon chéri,
je pars avec vous.
Jean Sablon et Mireille, puisque vous partez en voyage, 1935, illustration de l'apprentissage de la séparation estivale et les doutes qui vont avec sur la fidélité de l'autre. Sachant donc que, rapidement, les rencontres estivales deviennent un enjeu pour beaucoup. La plage devient un lieu à part entière de drague. On oublie les lourds costumes de bain, le bikini, apparu en 1946, s'impose. Les hommes, eux, adoptent le trunk, sorte de caleçon court sur les cuisses avec une ceinture. Bref, les corps se dévoilent pour le plaisir des yeux, comme le chante en 1960 Félix Martin et son physique de jeune premier.
Il y avait une pépée sur la plage, elle était roulée, comme on en voit sur les images, au kiosque à journaux pendu sur le côté. Elle a posé son petit bagage, s'est mouillé les pieds, s'est mouillé les pieds. Et davantage sur le rivage, chacun la regardait. Et les yeux tournés vers la forme légère, les gros, les forts, les nains, les ingénus. Au bord de la mer, il y avait toute la terre qui regardait une fille bien fichue. Il y avait une pépée sur la plage que la mer roulait, que la mer roulait, comme on en voit sur les images, avec du soleil quand revient l'été. La terre souhaitait qu'elle fît naufrage pour aller sauver, pour aller sauver. Corps et bagages, la fille sage qui près de la flottait. La mer éblouie quand la brume légère est descendue le soir sur les galets. La mer éblouie vit s'éloigner la terre dans le sillage de la fille bien roulée. Il n'y a plus de pépé sur la plage, elle s'est envolée, elle s'est envolée, en emportant son petit bagage, sa serviette jaune et ses pieds dorés. La terre a repris son courage, la mer ses reflets, la mer ses reflets, les gens leur âge et leur visage, comme si de rien n'était.
Pépé sur la plage, Félix Martin, 1960. Ces années 60, les Trente Glorieuses battent leur plein. Près d'un Français sur deux part désormais en vacances. Si la Bretagne est très prisée, elle arrive loin derrière le Sud et sa promesse de plages ensoleillées. Les plus chanceux optent pour Saint-Tropez, autrefois simple petit village de pêcheurs qui devient alors le repère d'une jeunesse dorée. C'est l'époque de la Nouvelle Vague, de Brigitte Bardot, Roger Vadim et des soirées endiablées autour des chats sauvages.
« à Saint-Tropez. Oui, ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. C'est là que commencent toutes les danses qu'on lance en France pour les vacances d'Ouest à Saint-Tropez. On est toujours en avance à Saint-Tropez. Sacha nous quitte, un jour ils seront de retour. Ils ne pourront jamais s'en passer. Tous viennent ici pour s'amuser. On a toujours appris à danser. Tous à Saint-Tropez. Oui, on vient partout dans le monde vers Saint-Tropez. On voit sur la plage mille visages. Plus tard, ils iront danser.
Yeah. Les Chats Sauvages, Twist à Saint-Tropez, 1961. Mais les vacances se méritent. Pour cela, donc, il faut prendre la route. Les routes où se croisent deux Frances différentes. L'une bourgeoise et classique, circulant dans des Peugeot 404. Et puis l'autre, moderniste, osant la Renault 16, voiture révolutionnaire, car première a proposé alors un coffre en haillon, idéal pour abriter les piles de bagages. Des voitures qui vont alors moins vite qu'aujourd'hui. Il faut plusieurs jours pour traverser la France. On fait des étapes dans les routiers et les hôtels qui fleurissent le long des nationales. Si certains donc profitent des charmes de Saint-Tropez ou de la Côte d'Azur, beaucoup d'autres, moins fortunés, choisissent de se rendre plus au sud. C'est la grande époque des vacances en Espagne, le long de la Costa Brava, l'Espagne franquiste, qui est alors mieux équipée que sa voisine en infrastructures hôtelières, attirant ainsi des foules françaises à même de profiter des charmes du soleil.
Cerca de mí es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio. Me estremezco cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol.
Los Machucambos, groupe de musique formé à Paris en 1959 par un Espagnol, une Costaricaine et un Péruvien, lequel sera remplacé par la suite par un Italien, mais là n'est pas l'essentiel pour ce Cuando calienta el sol, autrement dit quand le soleil chauffe. Expérience primaire des vacances qui suscite très tôt des mesures afin de préserver pudeur et moralité.
Les autorités espagnoles viennent de publier un communiqué qui intéresse tous les touristes visitant l'Espagne. À vous, Jean Créac.
Les nouvelles mesures interdisent aux personnes de plus de 14 ans de se promener en costume de bain dans les rues et dans les établissements qui n'avoisinent pas les plages. Le paragraphe B du premier article du nouveau règlement interdit également aux humains qui ont dépassé 14 ans de porter des pantalons courts, sauf dans les lieux de résidence estivale. Touristes français en Espagne, cachez vos jambes. À ceux d'entre vous qui trouveraient que ces dispositions ont leur petite odeur de moisi, je me permettrai de suggérer qu'elles marquent un progrès sur celles que l'Église espagnole édicta voici quelques années et qui imposait, elle, aux hommes et aux femmes de se baigner séparément sur les plages et dans les piscines. En somme, le nouveau texte marque un triomphe de l'hygiène moderne et de la liberté sportive. Les bikinis n'y sont pas interdits, preuve que la police espagnole les tient pour licites.
Archivina, 1960. Pour retenir en France les touristes qui préfèrent l'Espagne, De Gaulle lance donc un vaste programme de développement du tourisme de masse sur le littoral du Languedoc-Roussillon, débouchant à la fin des années 60 sur la création de plusieurs stations balnéaires, comme la plus célèbre, la Grande Motte. L'architecte, Jean Balladur, chargé d'y inventer une ville, y imagine de nouvelles habitations futuristes, inspirées des pyramides mayas. Il décide surtout d'orienter ses bâtiments perpendiculairement au rivage, histoire d'offrir au plus grand nombre une vue sur la mer. La mer qu'il faut voir, qu'il faut contempler, qui seule offre le baume apaisant tant espéré. Les années 70 sont celles de la vraie démocratisation des vacances. Les tarifs des billets d'avion baissent, les distances se banalisent. On peut sauter dans des charters à destination des Antilles, de la Thaïlande ou encore des Caraïbes. Là, certains voyageurs découvrent les aléas des voyages hors des sentiers battus, à l'image des Britanniques du groupe 10cc pour ce Dreadlock Holiday de 1978.
Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
En rapport avec la colo, l'organisation. Vas-y.
Obligatoire les douches.
Comment ?
J'ai pas reçu un colis.
Moi j'ai pas ma valise.
Est-ce que je peux changer de chambre ?
Et puis comment évoquer le temps béni des vacances sans mentionner au moins les colonies de vacances apparues au début du siècle et qui, permettant aux moins aisés de pouvoir envoyer leurs enfants gambader en plein air à moindre frais, offrait surtout à ces derniers, les enfants, l'expérience unique de pouvoir, le temps de quelques semaines, se réinventer loin de leurs parents, les colonies de vacances, les baisers volés, les amourettes clandestines et les promesses de s'écrire à la rentrée, car voilà, le temps passe et déjà, les vacances sont finies. Aujourd'hui, les vacances dans les pays occidentaux sont donc vécues comme une nécessité sociale, familiale et même quasi vitale. Le besoin de se reposer, de renouer des amitiés ou des liens familiaux distendus, de sortir de son quotidien, de la routine des transports en commun. Cet impérieux besoin de vacances, Il s'agit à chacun de se l'approprier et de le décliner selon son tempérament et ses névroses. Reste la possibilité physique, corporelle, de s'en remettre à un autre rythme, à d'autres rythmes, notamment à travers la danse, l'été, la danse, le nom du petit bal perdu, tous les étés se mélangent, aucun ne se ressemble, se perdre dans la danse. S'achève ce numéro de Jukebox, premier de nos quartiers d'été. Ce soir, l'invention des vacances ou le vertige de soi. Des vacances, des voyages par les ondes que Jukebox vous proposera donc tout cet été, les samedis et dimanches de 19h à 20h. Rendez-vous sur franceculture.fr pour réécouter ou télécharger cette émission, diffusée pour la première fois le 1er juillet 2017. Préparé à l'époque par Cyril Baer et Michael Simon. À la technique, c'était Marie Le Peintre, avec aujourd'hui Alexandre Dang. À la réalisation, Anne Kobilac, que je salue. Au micro, Amaury Chardot. À demain, 19h, pour une nouvelle rediffusion. Nous revisiterons la Somalie à l'aune d'un âge d'or musical étonnant et oublié. I know you don't get a chance to...